La Voix de l'Emploi, une série d'émissions consacrée à la valorisation des acteurs de l'économie, de l'emploi et de l'insertion. Ce projet, réalisé par Radio Ondaine, est financé dans le cadre de la politique de la ville par l'État et Saint-Étienne Métropole.
Le jeudi 26 septembre, l'agence France Travail de la Technopole de Saint-Étienne recevait dans ses locaux différents intervenants sous le titre « Tout entrepreneur, oser pour réussir ». Cet après-midi, organisé par France Active, France Travail et la délégation aux droits des femmes et à l'égalité de l'État, visait à répondre aux interrogations de femmes ayant un projet de création ou de reprise d'entreprise. Dans la Voix de l'Emploi, Radio Ondaine vous propose tout d'abord d'écouter Sébastien Guéton, directeur de France Active Loire, et Marie-Françoise Charrier-Tolo, chargée de mission et de communication à France Travail Loire, qui nous parle de tout entrepreneur osé pour réussir qui s'inscrit dans la semaine Restart, la semaine de la création et de la reprise d'entreprise pour sécuriser les parcours des demandeurs d'emploi dans l'entrepreneuriat, notamment celui des femmes.
Une semaine nationale qui s'appelle effectivement Restart, que Pôle emploi puis maintenant France Travail poursuit depuis plusieurs années. Et effectivement, au cours de cette semaine, France entière, il y a des événements dans les différentes agences avec nos partenaires de la création d'entreprises.
Alors ici, vous faites appel, hein, France Travail, France Active, à tous vos partenaires. Qui sont-ils ? Sans les citer tous, même si on peut le faire quand même.
On ne va pas tous les citer. On a les partenaires acteurs de l'accompagnement de la création d'entreprise. Et puis on a aussi les réseaux de femmes chefs d'entreprise, donc 4 réseaux qui animent le territoire. En tout, c'est une grosse quinzaine de partenaires mobilisés sur cet événement.
Alors, cette question d'entreprendre au féminin, chef d'entreprise, entrepreneur RE, cette question-là, elle est importante. Et on a vu la conférence de Stéphanie Hainaut sur ce chiffre, finalement, qui n'évolue que guère. Quel est le constat que vous faites et quel est l'objectif de l'organisation d'un événement tel que celui-ci ?
Alors l'initiative part au départ de la déléguée aux droits des femmes et à l'égalité, effectivement, qui se souciait de la capacité des femmes à créer une entreprise, sachant qu'il y a des freins sociaux, psychologiques, et qu'en termes d'organisation, c'est pas forcément simple pour une femme d'être en plus chef d'entreprise, en plus de ses fonctions de mère de famille et différentes fonctions qu'elle tient au sein de sa maison.
D'accord. Quand on va accompagner, quand on va accueillir France Travail, quand on va accompagner avec France Active des femmes qui souhaitent créer leur entreprise, qu'est-ce qu'on leur dit ? Est-ce qu'on leur dit que ça va être dur, plus compliqué ? Est-ce que l'on les guide d'une manière tout à fait classique ?
Alors, on ne fait pas de différence dans l'accompagnement entre un homme et une femme. Hein. Ce qu'on regarde, c'est le projet, la porteuse, les caractéristiques de son projet. La seule différence qu'on peut avoir, c'est que nous, à France Active Loire, on a des outils de financement spécifiques pour les femmes qui créent ou reprennent une entreprise. On gère un dispositif qui s'appelle la garantie égalité femmes, qui est un dispositif d'État qui nous permet de mieux garantir les prêts bancaires que les femmes mobilisent dans le cadre de leur projet. Mais sinon, notre accompagnement technique reste le même et tous les acteurs de la création accompagnent de la même manière. Après, on peut par contre prendre en compte les spécificités éventuelles de l'entrepreneuriat des femmes, mais globalement, ça reste d'abord des créateurs et des créatrices d'entreprises.
Alors, on parle de secteurs d'activité. Est-ce qu'on différencie des secteurs d'activité d'une manière statistique, hein, finalement, entre entrepreneurs masculins, entrepreneurs féminins ?
Au même titre que l'emploi, effectivement, on a des marqueurs d'activité plus portés par des femmes ou d'activités plus portées par des hommes. Après, il y a cette différence-là qui existe dans l'emploi classique. On le retrouve, le social, la santé, prendre soin des autres, c'est plutôt des orientations d'activités connotées féminines. Et pourtant, on peut très bien favoriser la mixité, briser ces stéréotypes de genre qui n'ont plus vocation d'exister aujourd'hui.
Alors, qu'est-ce que vous attendez d'une journée telle que celle-ci, et plus largement sur cette semaine quels sont les objectifs que vous êtes fixés ?
L'objectif, c'est de développer la création-reprise d'entreprises. Et sur cette journée plus particulièrement, c'est dire aux femmes, c'est possible. C'est possible, et justement d'avoir les réseaux chefs d'entreprise qui vont apporter des témoignages sur le fait que, si on prépare correctement son projet, il n'y a pas plus de difficultés quand on est une femme que quand on est un homme.
En ouverture de cet après-midi, c'est Stéphanie Hainaut, doctorante en sciences de gestion à l'Université de Saint-Étienne, qui animait la conférence « État des lieux et critique de la recherche sur les femmes entrepreneurs ».
Quand on regarde d'un point de vue scientifique, les premières études qui se sont intéressées à l'entrepreneuriat ont finalement regardé un ensemble de pratiques qui étaient éminemment masculines parce que du coup on regardait plutôt les hommes entrepreneurs. Et à la fois sur le terrain et dans la littérature, du coup, on a vraiment créer cette figure un peu mythique de l'homme entrepreneur qui va être plutôt un homme blanc, valide, hétérosexuel, qui va aller braver des obstacles. Et en fait, ce mythe, il reste assez présent dans nos esprits et on a du mal à en sortir et à imaginer une autre figure. Alors, en effet, vous parliez du dieu qu'on peut mettre évidemment à l'écrit pour rendre visibles ces femmes, mais on peut aussi, imaginer le terme entrepreneuse à l'oral pour justement favoriser la place des femmes et la rendre plus visible dans l'entrepreneuriat.
Si l'on parle de ces freins à la création d'entreprise, qu'est-ce que ça peut être ?
Alors les freins, ils sont, on va dire, de deux ordres. Les premiers, c'est les freins internes. On va dire que c'est plutôt les femmes entrepreneurs qui vont se mettre un certain nombre de freins. Alors évidemment, ces freins-là, se les mettent pas toutes seules comme ça du jour au lendemain. Ça va être construit socialement. Et puis il y a les freins externes liés au milieu entrepreneurial. Alors par exemple, les freins internes, ça va être une plus faible perception liée à leur auto-efficacité. Elles se sentent globalement moins capables d'entreprendre et de réussir dans l'entrepreneuriat. Et cette auto-perception, elle va être liée à quatre facteurs, liés notamment à des expériences similaires qu'elles vont avoir réussies, à avoir vu dans leur entourage des personnes réussir en tant qu'entrepreneurs, à des feedbacks positifs sur des tâches qu'elles vont avoir réussies, ou encore à leur état émotionnel, par exemple lié au stress ou autre. Et puis, sur les freins externes, plutôt liés à l'environnement entrepreneurial, là, ils vont être multiples, l'accès au financement, l'accès au réseau, qui vont être à chaque fois un ensemble d'embûches dans leur parcours. Pour ne prendre qu'un exemple, il y en a des centaines. Par exemple, quand on pitch devant des investisseurs et des investisseuses, les études ont montré qu'on ne pose pas les mêmes types de questions aux hommes et aux femmes. Alors évidemment, les gens ne se questionnent pas là-dessus en amont. Ils ne se disent pas, tiens, aux hommes, on va poser tel type de questions et aux femmes un autre. Mais il y a un ensemble de biais cognitifs qui est à l'œuvre qui va faire qu'au final, c'est bien ce qui va se passer. On va plutôt demander aux hommes de promouvoir leur entreprise. Comment vous allez faire pour conquérir ce nouveau marché? Comment vous allez faire pour augmenter votre chiffre d'affaires? Là où pour les femmes, par exemple, on va plutôt leur poser des questions liées à la prévention. Votre entreprise a certaines faiblesses. Comment vous allez faire pour les pallier? Et si finalement votre partenaire majoritaire vous abandonne, comment allez-vous rebondir? Et donc tout cela va induire des discussions qui ne vont pas aller dans le même sens et qui vont participer par la suite à des discriminations et au fait que les femmes vont avoir par exemple moins de financement que les hommes.
Alors est-ce qu'on parle aussi de secteur d'activité? Est-ce qu'on a des idées de représentativité de femmes entrepreneurs sur certains types de secteurs?
Oui, alors là, j'ai pas les chiffres exacts, mais en effet, globalement, si on regarde, les femmes vont avoir généralement des entreprises plus petites, employer moins de personnes et dans des secteurs d'activité plutôt liés au care, au prendre soin d'eux. Et en effet, ça, c'est vraiment une vision genrée de l'entrepreneuriat. En fait, les femmes et du coup les petites filles, dès la naissance, sont assez sociabilisées sur le fait de prendre soin d'eux. On va prendre soin de la poupée avec laquelle on joue, etc. Et donc, dans les entreprises, ça va se ressentir. On va avoir des entreprises plutôt liées, par exemple, à l'esthétique, etc., où on va prendre soin d'eux. Là où les hommes, on va être plus sur des aspects techniques, etc. Ce qui ne veut évidemment pas dire que l'un n'est pas capable de faire l'autre, etc. Ce qui est assez étonnant, c'est qu'en fait, quand on regarde la pérennité des entreprises, c'est les femmes qui ont un plus fort taux, enfin en tout cas leurs entreprises qui ont un plus fort taux de pérennité. Pour autant, c'est pas elles qu'on valorise parce que justement, généralement, elles ont des entreprises plus petites et que on souhaite valoriser une image de l'entrepreneuriat qui va valoriser le profit, etc. Quitte à ce que l'entreprise périclite quelques années après. Donc c'est aussi un choix de la part des médias, des politiques, de valoriser tel type d'entrepreneuriat plutôt que tel autre.
À l'heure de la Startup Nation, on est un peu en retard, mais est-ce que là les chiffres évoluent ?
Non, ça évolue pas beaucoup. Là, par exemple, j'ai donné un chiffre dans la conférence sur les start-up. Les femmes ont 30% de moins de chances d'être financées que les hommes, par exemple. Et sur les étudiants entrepreneurs, avec la politique forte d'entrepreneuriat étudiant impulsée par le ministère avec les pépites, on se rend compte qu'il y a toujours que... On est similaire au chiffre des femmes entrepreneurs parce qu'il n'y a que 38% d'étudiantes entrepreneurs. Et après, elles disparaissent au fil de l'eau. Donc finalement, start-up ou pas, ça ne change pas encore grand-chose.
Alors, Alors vous parliez de financement et ces financements, cet accès au financement plutôt défavorable pour des femmes entrepreneurs. On parle ici clairement de discrimination. Si on arrive à démontrer cet acte, est-ce que ces femmes-là qui se sont senties flouées, discriminées, est-ce qu'elles continuent, est-ce qu'elles luttent aussi derrière, ou est-ce que finalement ça amène à un épuisement et à un abandon?
Je pense qu'il y a un petit peu de tout, là j'ai pas de chiffre exact, mais il y a un petit peu de tout pour deux raisons. La première déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que déjà en amont, les femmes s'auto-discriminent lorsqu'elles demandent des financements. Donc soit elles ne vont pas en demander, soit elles vont en demander à entreprise qui pourrait être à peu près égale un homme, beaucoup moins que ce que va le faire un homme, premièrement. Deuxièmement, en fait, le plus faible financement, généralement, en fait, il passe inaperçu. En fait, c'est des actes insidieux du quotidien et beaucoup de femmes entrepreneurs, comme d'ailleurs des financeurs, ne font même pas attention à cela. Donc finalement, parfois ça ne se voit pas, on se débrouille autrement, on est habitué à se débrouiller autrement. Parfois en effet, ça va mettre en péril le futur du projet, donc ça va dépendre des cas. Ce sur quoi j'insistais aussi beaucoup sur la conférence, c'est qu'il y a un état de fait, typiquement sur par exemple les financements qui sont plus faibles pour les femmes que pour les hommes. Et après il y a deux lunettes, on va dire, qu'on peut chausser. Il y a toutes les approches féministes libérales qui elles vont prôner un certain type de modèle qui vont ressembler finalement au domaine dominant, où on va devoir créer une entreprise pour faire de l'économie, qui doit avoir un gros chiffre d'affaires, etc. Et c'est montré qu'on peut faire entre guillemets aussi bien que les hommes, et le mot d'ordre c'est oser, n'ayez pas de peur. Et puis il y a toutes les approches post-structuralistes, par exemple socio-constructivistes, dans lesquelles je m'inscris, où là on va plutôt regarder l'ordre social et est-ce qu'on peut pas du coup changer les choses. Donc la question c'est de se dire, est-ce que j'apprends aux femmes là à aller demander plus, à mieux pitcher, etc. Ou est-ce que j'essaie également en parallèle de me dire, si je sensibilisais, formais, informais les membres des jurys, on pourrait faire différemment. Donc c'est la remise en cause de l'ordre social qui peut être aussi à l'œuvre.
Dans le paysage que l'on peut avoir, est-ce que aussi il existe des statistiques sur l'origine sociale et la zone d'habitation, la zone géographique d'habitation? Est-ce que là aussi le gap est le même?
Alors j'avoue que là j'ai pas non plus de chiffres à vous donner. Par contre, dans ce que je vous disais sur les approches libérales, on voit plutôt que globalement c'est femmes entrepreneurs qui vont créer notamment à des moments des réseaux de femmes entrepreneurs qui sont dans ces approches-là. Hein. Pas tous les réseaux sont dans ces approches-là. Ça va plutôt être des femmes blanches, valides, qui ont un gros capital social et économique. Donc on n'est pas si ouvert que ça non plus.
Alors pour terminer, y a-t-il des pays qui montrent la voie, l'exemple, qui arrivent à une égalité dans ces entrepreneurs masculins ou féminins?
Alors, on pourrait croire que typiquement au Québec, en Suède, etc., ça se passe beaucoup mieux. Le fait est qu'au quotidien, il me semble un peu moins à des moments d'actes insidieux, puis il y a des choses qui ne sont pas acceptées que nous, on accepte en France. En revanche, ça ne se voit pas forcément dans les chiffres, puisque en fait le GEM, le Global Entrepreneurship Monitor, nous montre que globalement tous les pays occidentaux ont à peu près les mêmes chiffres que nous sur l'écart entre les hommes et les femmes entrepreneurs.
Je m'appelle Firouz, j'ai 25 ans, donc là je suis ici aujourd'hui pour avoir un peu plus d'informations, un peu voir comment ça se passe l'entrepreneuriat. Bon, j'ai mis un pied dedans. Là je viens de terminer mes études dans le contrôle de gestion dans la finance, et en parallèle j'aimerais bien du coup ouvrir une activité à côté, donc ce serait plus dans l'événementiel, prêt-à-porter, okay. Location.
Donc vous avez l'idée, est-ce que vous avez entrepris déjà les démarches?
Oui, alors j'ai commencé un petit peu, donc je fais de la location de robes de soirée. Mais là, j'aimerais bien un peu plus le développer, vraiment que ce soit bien établi, bien formé. Et à côté, pourquoi pas par la suite rajouter de la location, c'est des photobooths, je ne sais pas si vous voyez. Voilà, pour les événements, mariage, salon, mais ça sera par la suite.
Alors, l'événement dans lequel on est ici, c'est finalement cette invitation faite par France Travail et France Active autour des femmes, chefs d'entreprise, de la création d'entreprise par des femmes. Et on voit dans ce programme-là qu'il y a un petit sous-titre qui dit « Oser ». Pourquoi on ose quand on est une femme? Pourquoi on n'oserait pas parce qu'on est une femme?
Bonne question. Je pense qu'il y a plus de crainte en étant une femme, de peur de ne pas réussir, je pense. C'est cette crainte-là de se dire que mon projet ne va pas aboutir, ne va pas voir le jour, et la crainte justement de perdre, que ce soit une perte financière, matérielle ou autre. On a plus cette crainte-là, je pense, que pour un homme. Je pense que la différence, elle va se faire ici, enfin selon moi.
Ici, vous avez assisté à des ateliers, lesquels? Et puis, qu'est-ce que vous en avez retenu?
La première, c'était la conférence d'introduction. Et la deuxième, c'était donc, entre l'idée et l'impact, enfin comment le projet va devenir un impact. C'était très intéressant. Donc, il y a plein de projets, très très variés. Et on voit que chacune a une vision un peu personnelle de son projet et de comment elle voit... comment voir aboutir son projet. C'est le plus intéressant à voir.
Ok, ça vous inspire, ça vous donne des pistes?
Bien sûr, on peut, bah oui, ça, d'échanger, de voir de quelle manière ou d'une autre manière la personne veut engager son processus entrepreneurial. Donc oui, ça donne des idées et puis c'est bien de voir autour de soi qu'est-ce qui se passe.
Créer une entreprise, c'est d'apporter aussi un financement, c'est une prise de risque financière, c'est d'avoir des partenaires qui peuvent aussi vous suivre. Est-ce que ça, vous en avez besoin, vous? Et est-ce que vous avez déjà commencé à ouvrir certaines portes, à aller voir certaines personnes, structures qui pourraient vous accompagner, ou peut-être vous n'en avez pas besoin?
Pour le moment, non. Je fais un peu de mon côté. C'est un peu de la communication, enfin je fais ma propre communication. Donc c'est vrai que j'ai une formation un peu marketing, donc tout ce qui est finance, gestion, donc je m'y connais un peu. Donc c'est vrai que pour le moment, bah, j'ai pas forcément pris la peine d'aller voir quelqu'un d'autre. Mais par la suite, oui, c'est important, je pense, de faire des partenariats, de s'ouvrir un peu plus aux autres.
Alors, je m'appelle Cécile Fayolle, je suis présidente du réseau Clé 42, donc sur Saint-Étienne et Montrond. Et je suis chef d'entreprise depuis 13 ans. Je fais du consulting et de la formation en création d'entreprise et en marketing. Clé 42, c'est un club d'entrepreneurs au féminin qui est composé exclusivement de femmes entrepreneurs, qui a été créé en 2022 sous format associatif.
Alors, on a plusieurs clubs d'entrepreneurs au féminin qui sont représentés ici. Vous la porte-parole un peu de tout. Pourquoi un club d'entrepreneurs? Pourquoi club d'entrepreneurs au féminin?
Alors, un club d'entrepreneurs au féminin, ça a été une réflexion qui a été longuement et mûrement réfléchie. En fait, l'idée, c'est vraiment de conforter la femme dans son rôle d'entrepreneur par rapport à ce problème de légitimité, par rapport à ce problème de syndrome de l'imposteur que les femmes ont plus que les hommes. Donc, c'est aussi de les rassembler dans des clubs ou dans des collectifs qui leur permettent de s'exprimer et de se sentir entraidées avec une bienveillance. Donc, c'est pour ça que nous, Clé 42, on a créé ce concept-là autour de l'entraide, de la bienveillance et du business, mais les autres clubs aussi, qui sont les autres clubs stéphanois et autres hein, de partout, ont développé pour pouvoir accueillir ces femmes qui sont de plus en plus nombreuses à entreprendre.
Alors, même si elles sont de plus en plus nombreuses à entreprendre, les femmes ont des barrières qu'elles peuvent se mettre elles-mêmes, mais qui sont aussi mises par d'autres, par des stéréotypes, par des clichés. Et on a bien dans ce titre-là, oser pour réussir. Oser, c'est donc passer le pas. Quand vous avez créé votre entreprise, dans quel état d'esprit vous êtes partie?
Alors, je suis partie plutôt positive, dans le sens de mes compétences internes. J'avais une certaine confiance en moi. Mais ça s'acquiert et finalement c'est peut-être un peu inné aussi. Ensuite, ce qui a aussi été un peu compliqué, c'est d'être solopreneur. Mais là, j'entends le fait que ça soit pas genré. Un homme peut se sentir très seul dans son travail, qu'il soit et salarié et aussi chef d'entreprise. Et en fait, ce qui a été compliqué dans ce développement de cette entreprise, c'est de ne plus se sentir entouré, conseillé. Et de partager ses doutes, ses peurs et aussi ses réussites. Du coup, c'est ça qui est plus compliqué dans ce rôle d'entrepreneur, c'est finalement de rompre cette solitude et de trouver des pairs, des consoeurs, des confrères qui nous ressemblent pour pouvoir partager et continuer à se développer.
Alors c'est une série de rencontres, conférences, ateliers qui sont organisés aujourd'hui pour motiver, pour dire que c'est possible. Pourquoi vous y participez, vous, en tant que réseau de club d'entreprise? Quelle est l'importance de votre présence ici?
Alors, l'importance d'un club d'entrepreneurs, c'est que, en fait, l'entrepreneur, quel qu'il soit, est beaucoup aidé au démarrage de son projet. Dès lors qu'il devient porteur de projet, il est entouré de toutes ses collectivités, ses institutions privées ou institutionnelles qui vont l'aider à mettre en place un business plan, une étude de marché, de mettre en place des aides de financement, etc. Donc on a tous ces acteurs-là qui sont là aujourd'hui. Mais ensuite, dès lors qu'ils deviennent entrepreneurs, que tout ce travail a été fait et que l'immatriculation est passée, ben l'entrepreneur se retrouve vraiment très seul. Et en fait, les institutions ont besoin de ces clubs qui se forment autour de l'entrepreneuriat au féminin, c'est le sujet d'aujourd'hui, mais surtout autour de l'entrepreneur d'une manière complètement générale et qui lui permettent finalement d'être accompagné pour le post-création, pour l'aider à se développer. Et il y a peu d'institutions qui le proposent.
Alors vous évoquiez tout à l'heure le fait d'être assez confiante, peut-être d'une manière naturelle, et peut-être c'est aussi le développement de votre activité. On peut imaginer être confiant dans son idée, dans sa vision et perspective d'avenir. Est-ce que vous avez rencontré des personnes qui vous ont mis face à votre genre, vous êtes femme, pas faite pour créer, gérer une entreprise ?
La réponse est non.
La réponse est non. Est-ce que vous avez rencontré des femmes qui vous ont évoqué ça ?
La réponse est oui. La réponse est oui. Il y a certaines activités où le genre est très important dans le regard des autres. Pour moi, l'activité que je représente n'est pas, entre guillemets, genrée et je n'ai jamais eu, en tout cas, je n'ai jamais ressenti, mais peut-être aussi, je mets le bémol, c'est peut-être ma nature, de ne pas se formaliser sur des faits et des dires. Je n'ai jamais ressenti d'animosité sous le prétexte que j'étais une femme et que je pouvais entrer dans un milieu un peu plus masculin qui est le milieu du coaching et du consulting, à l'image que ce que l'on pouvait voir ça il y a une vingtaine d'années.
Aujourd'hui, d'autres freins peuvent exister aussi à la création d'entreprise. On a sa condition, son genre, on a des statistiques hein, là-dessus. On a aussi son passé, ses origines, sa situation géographique. Tout ça fait que, pour certaines personnes, c'est un vrai parcours du combattant. Est-ce que vous ressentez, vous, de votre expérience, de vos échanges avec les différents clubs, des changements ou est-ce qu'il y a encore du travail à faire ?
La situation est encore fragile. On part d'une société qui va mettre peut-être des décennies à s'équilibrer. On œuvre pour cet équilibre-là, hein, non pas pour prendre le devant, mais surtout pour avoir notre place en tant que professionnel et non pas en tant que genre. Hein. C'est un petit peu l'idée qu'on pourrait s'en faire. Et il est vrai qu'il y a certaines catégories de femmes qui ont des freins internes, psychologiques et familiaux, où on leur fait prendre conscience que leur place n'est pas dans l'entrepreneuriat. Et je trouve ça dommage d'être confronté encore en 2024 à ce genre de cas-là.
À côté des stands et autour des différents ateliers, il y avait aussi la présence de 60 000 rebonds Auvergne-Rhône-Alpes, une structure qui accompagne des entrepreneurs après la perte de leur entreprise. Nous demandons à Florence Saugue, chargée de développement à 60 000 rebonds Auvergne-Rhône-Alpes, pourquoi elle est présente ici.
Oui, en fait, la vie d'une entreprise, hein, ça part de la naissance jusqu'à la mort. Et donc, effectivement, nous intervenons après la perte de l'entreprise, parce que ce sont des choses qui arrivent et qu'il faut avoir en tête quand on crée son entreprise également. Alors on a vraiment des chefs d'entreprise de tous les milieux, de tous les secteurs d'activité, des hommes et des femmes bien sûr. Alors c'est vrai que les femmes souvent, elles peuvent créer en tant que micro-entreprise sur des thématiques effectivement de coaching, de formation, en thérapeute ou autre, naturopathe, enfin on a un petit peu de tout et ce sont des femmes effectivement qui parfois ne peuvent pas aller au bout de leur projet.
Alors, entrepreneur, vous avez cessé votre activité, nous sommes là pour vous accompagner gratuitement. Voilà ce qu'on peut lire sur une plaquette. On en parlait tout à l'heure. Hein. Beaucoup de personnes peuvent être autour de vous à l'accompagnement de la création d'entreprise. Vous êtes entouré, mais quand l'entreprise ferme, quand l'activité cesse, on se retrouve bien seul.
Effectivement, le but de l'association, alors c'est d'une part de changer le regard sur l'échec, mais aussi de sortir le chef d'entreprise qui a perdu son entreprise, le sortir de son isolement. Souvent, on se retrouve très seul, très isolé, dans parfois des situations financières difficiles. Et le but de l'association, c'est vraiment d'accompagner le chef d'entreprise à rebondir professionnellement après la perte de son entreprise. Alors en fait, nous proposons à la fois un accompagnement individuel et un accompagnement collectif. Chaque chef d'entreprise est accompagné par un binôme, un coach et un parrain. Le coach, c'est un coach certifié, dont c'est le métier, et il va accompagner la personne pour se reconstruire personnellement, faire le deuil de son entreprise, et également retrouver confiance en elle, retrouver de l'estime de soi. Le parrain, c'est un chef d'entreprise, un cadre dirigeant qui, lui, va accompagner sur le nouveau projet professionnel, l'aider à définir ce nouveau projet, bâtir le plan d'action, et puis l'aider à passer toutes les étapes pour rebondir effectivement jusqu'à la signature d'un contrat de travail ou jusqu'à la création à nouveau d'une nouvelle entreprise.
Alors 60 000 rebonds agis sur la totalité de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Est-ce que l'on retrouve des antennes locales avec des référents sur chacune des grandes villes ?
Oui, absolument. Donc, nous avons à Saint-Étienne l'antenne Loire, hein, qui existe depuis 2018. Donc, avec effectivement des coachs et des parrains locaux, hein, qui connaissent bien du coup l'écosystème et les réseaux. Donc, c'est un accompagnement de proximité pour les chefs d'entreprise qui en ont besoin. Alors, en fait, on s'adapte vraiment à la personne, à son rythme, à ses besoins. Il y a cet accompagnement effectivement individuel, il y a également des réunions collectives parce que c'est un réseau de soutien, donc on se réunit également tous les mois entre les bénévoles et les entrepreneurs accompagnés. Et puis cet accompagnement il va vraiment très loin, il peut aller jusqu'à 24 mois, mais quelqu'un qui rebondit très vite au bout de 3 mois il est totalement libre, hein. On se situe grosso modo entre 12 et 18 mois en fait.
D'accord.
Le rebond salarial est plus rapide que le rebond entrepreneurial en général.
Alors, on se pose la question aussi de quoi vit-on pendant ce moment-là, parce qu'on n'a peut-être pas pris toutes les précautions financières. Est-ce que là aussi, on peut guider vers des choses, des structures d'accompagnement ?
Oui, alors effectivement, alors bien sûr, là aussi, tout dépend du statut hein, du chef d'entreprise. Beaucoup n'ont pas droit à l'ARE, hein, vous vous en doutez. Donc l'allocation de retour à l'emploi de Pôle emploi. Par contre, il y a une aide hein, pour les indépendants qui a été mise en place. Après, beaucoup de nos entrepreneurs prennent un job d'appui, donc un job alimentaire hein, par rapport à leurs soucis financiers. Et nous, on les aide vraiment après, parallèlement, à réfléchir à un projet sur la durée qui leur corresponde vraiment pour asseoir après une vie professionnelle qui leur corresponde.
Alors, on parle aussi de l'âge de ces personnes qui font appel à vous. On imagine quelqu'un qui a créé son entreprise, qui l'a fait évoluer pendant des années et qui va se retrouver peut-être avec un certain âge et peut-être souvent aux alentours de 50, 50 et quelques, où là, on se retrouve vraiment dans un vide où les offres d'emploi n'affluent pas. Les recruteurs peuvent être aussi un peu réticents. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui revient souvent à vos oreilles dans les rencontres que vous avez ?
Alors en fait, franchement, les choses évoluent quand même. C'est vrai qu'on a beaucoup de chefs d'entreprise qui viennent nous voir, qui sont dans la quarantaine, la cinquantaine, réellement. Mais c'est vrai qu'ils ont une vraie expérience à valoriser. Et on les aide à définir justement leurs atouts et l'argumentation à mettre en place vis-à-vis d'un futur employeur. 96% des chefs d'entreprise qu'on accompagne ont un rebond effectif.
D'accord.
Donc il y a une vraie réussite hein, sur cet accompagnement.
Alors pour terminer, est-ce que c'est important d'être présent ici dans un forum, entre guillemets, qui amène à réfléchir à la création d'une entreprise ? Est-ce que c'est important d'avoir votre présence là ? Et puis comment vous la présentez aux visiteurs ?
En fait, on veut totalement dédramatiser l'échec. La création d'entreprise, c'est une expérience comme une autre. Je veux dire, un sportif, il a des échecs, un salarié, il a des échecs, un chef d'entreprise, il a des échecs, et ça fait partie de la vie. Et je pense que plus on va changer ce regard sur l'échec, plus ce sera facile aussi d'entreprendre.
Terminons ce reportage avec Catherine, créatrice d'entreprise, qui, après avoir monté les statuts de sa future activité, continue à prendre des renseignements. D'ailleurs, a-t-elle rencontré des réticences dans la création de son entreprise, notamment réticences de diverses administrations ?
Alors vous savez, je ne pense pas que les formulaires administratifs soient tellement genrés. Cela dit, c'est une question qui est vaste. Hein. Dans mes expériences professionnelles passées, bien sûr, qu'en tant que femme, j'ai eu quelques obstacles. Mais très sincèrement, ça n'empêche pas d'avancer.
Alors le parcours pour la création d'entreprise avant le démarrage de l'activité, il se passe comment ? Est-ce que c'est long ? Est-ce que votre idée était mûre dans votre esprit ? Expliquez-nous en fait comment on décide et on arrive à la création de son entreprise.
Alors le temps passé va évidemment dépendre de votre expérience et puis du projet en lui-même. Toutes les activités ne requièrent pas le même temps. Cela dit, je pense que ce qu'il est surtout important de savoir faire, c'est justement savoir prendre le temps pour créer. Il y a, au-delà des démarches administratives qui ne sont que l'aboutissement d'une réflexion et de beaucoup de recherches d'informations. Voilà. Et c'est un temps de recherche qui est absolument nécessaire, parce que pendant ce temps-là, on affine son projet.
Dans quel secteur d'activité vous créez ?
Alors moi, je travaille dans l'organisation de l'information, en général. D'ailleurs, il va falloir que je... Vous voyez, ça fait partie du travail de tester lorsque sa présentation d'activité. Parce que lorsque je parle d'organisation de l'information, qui est pourtant une science très rigoureuse, la plupart des gens ne savent pas de quoi je parle. Voilà, bon. Donc, pour aller plus vite, lorsque je m'adresse aux particuliers, je m'occupe de transition professionnelle et d'orientation scolaire pour les jeunes. Ça fait 15 ans que je travaille sur l'orientation scolaire. C'était un de mes sujets de thèse de doctorat, d'ailleurs, que je n'ai pas terminé. J'ai inventé ma propre méthodologie. Et pour les professionnels, j'ai effectué des missions de management de transition. J'aide les entreprises à mettre en place une politique d'innovation pour faire immerger l'innovation dans leur structure. Je les accompagne pour la mise en place du travail transversal, qui est très demandé, mais pas vraiment encore dans les mœurs, malheureusement. Voilà, ce genre de choses.
Alors, on revient à peu près à ma première question, parce qu'on voit que votre projet est très abouti, innovant en plus. Pourquoi vous venez ici ? Est-ce qu'il y a encore d'autres informations à venir récupérer ?
Alors d'abord, il y a toujours beaucoup d'informations à récupérer. C'est toujours intéressant d'entendre parler les gens de leur expérience, que le projet, que l'entreprise soit déjà créée ou que le projet soit en cours de création. Moi, dans mon travail, lorsque j'accompagne des gens qui veulent changer de métier, certains vont avoir envie, à la fin du processus, de créer une entreprise. Il faut que j'ai le maximum d'informations pour les accompagner. Voilà, donc il y a déjà ça. Et l'autre intérêt, c'est de rencontrer aussi des personnes et de pouvoir prendre des contacts simplement pour avoir l'occasion de présenter son activité aussi.
La Voix de l'Emploi, une série d'émissions consacrées à la valorisation des acteurs de l'économie, de l'emploi et de l'insertion. Ce projet, réalisé par Radio Onden, est financé dans le cadre de la politique de la ville par l'État et Saint-Étienne Métropole.